C'est ta radio.
C'est votre web radio.
C'est ta radio.fr. C'est ta radio.
C'est ta radio.
Pop.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre. Il est quelle heure au Guatemala. J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne.
Et en direct dans Radio Vélo en ce lundi 11 mai, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, à mes côtés, Monsieur Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Également notre ami Philippe, salut Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Et comité restreint, petit comité, oui, tous sont partis sur les routes du Giro, non pas du tout. Le reste de l'équipe est un petit peu partout, notre ami Max est en train d'arriver, il a participé un petit peu à toutes les courses amateurs de ce week-end. On a notre ami Julien que l'on salue qui est dans la banlieue parisienne, on a toute équipe Radio Vélo un petit peu éparpillée. Alors on compte sur vous aujourd'hui pour que le cyclisme garde sa place sur l'antenne de cette radio, dans Radio Vélo, et bien pour que on fasse un petit peu une émission participative. Hein, c'est un nouveau concept. Vous avez été nombreux à réagir tout au long du week-end et puis ces dernières semaines également sur l'actualité vélo, sur le compte Twitter @radiovélo31. Il faut dire que le Giro a commencé. Philippe, c'est vrai que quand on arrive à la saison du Giro sur une année de vélo, on est vraiment dans le truc.
Ah ben disons que le Giro c'est le début effectivement des grands tours, des trois grands tours. Il y a le Giro, il y a le Tour de France et puis après il y a le Tour d'Espagne, il y a la Vuelta effectivement. Donc on a passé les classiques et on passe effectivement au grand tour. Et les grands tours c'est quand même la légende du cyclisme effectivement. Surtout le Giro avec ses très très grands cols. On dit que les cols en Italie sont les plus difficiles et même plus difficiles que certains tours du Tour de France. En plus cette année le Giro est assez tôt dans la saison, donc il risque d'avoir des conditions difficiles dans les cols. On va voir ce que ça m'a donné.
Guillaume, la saison du Giro, ça veut dire quoi?
Ouais, c'est la fin des classiques de printemps et puis ça y est, on rentre dans les grandes courses à étapes sur plusieurs semaines. Donc effectivement, Giro, après on va enchaîner assez rapidement sur le Critérium du Dauphiné en juin et puis l'épreuve reine après le Tour de France. Donc c'est vrai que ça commence à être sérieux pour tous les prétendants au Grand Tour comme Contador, Froome. Là, s'ils sont pas prêts maintenant,
là c'est plus que sérieux même. Justement, je lisais dans le journal Libération aujourd'hui, ouais, on cite même des grands journaux culturels dans Radio Vélo. D'ailleurs, si tu veux l'attraper là sous l'équipe, tu vas voir là-bas Guillaume. La une qui déjà ce matin m'avait frappé hein, avec François Hollande déguisé en Che Guevara. Ça a accroché.
Che Hollande.
Mais non, je lisais l'article de notre ami Pierre Carré, qui a fait le papa de Direct Vélo, vous savez bien. Pierre Carré, qui a fait un article, et bien, sur la place du Giro par rapport au Tour. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir, l'évolution du Giro, qui plus que jamais, Philippe, est en train de prendre de l'ampleur, notamment du point de vue du spectacle, non?
Oui, effectivement, à une certaine époque, le Tour de France dominait effectivement les grands tours. Le Giro, on disait, c'est plutôt spécialisé italien. Effectivement, c'est plutôt les Italiens qui vont gagner le Giro. Surtout des fois qu'il y avait quelquefois quelques combines, effectivement, qui empêchaient les autres nations de gagner le Giro. Mais le Giro est en train de retrouver des grands lustres qu'il avait quand même dans les années 50, quand il y avait les Italiens qui dominaient le cyclisme, comme Fausto Coppi, Bartali. On se souvient des grands duels. On se souvient aussi que Louison Bobet avait essayé de gagner le Giro, mais il avait jamais réussi à le gagner. Donc oui, le Giro maintenant trouve quand même ses lettres de noblesse, surtout que maintenant le Giro est souvent très très montagneux.
Et, voilà. Mais ça a changé, Philippe, de la perception du Giro, à ton avis, depuis ces années avec les grands champions dont tu parles?
Le Giro était très populaire pendant, dans les années 50, mais dans les années 50, de toute façon, toutes les courses cyclistes, les grands tours, le Tour de France, le Giro, étaient très très populaires, à part effectivement le Tour d'Espagne qui était un petit peu en retrait. Mais après, le Giro dans les années 60 avait perdu un petit peu de sa lustre, son lustre, mais là, c'est en train de revenir, parce que le Giro, effectivement, est mis à honneur par beaucoup d'équipes qui veulent effectivement gagner le Giro, quitte à faire l'impasse sur le Tour de France, parce qu'il est très très rare que des coureurs arrivent à gagner et le Giro et le Tour de France. Je ne sais pas, Contador peut être en train de tenter ça cette année.
Est-ce qu'il est en train de tenter ça, ou est-ce qu'il est en train de faire ce que tu as dit dans le début de ta phrase, c'est-à-dire quand on ne peut pas forcément gagner le Tour de France, bah autant gagner le Giro?
Oui, mais quelquefois, souvent, les coureurs, quand même, ils veulent gagner les deux.
Bien sûr, bien sûr.
On se souvient effectivement de grands coureurs comme Merckx, comme Fignon, il avait fait pas réussi, effectivement, je vous en parlerai tout à l'heure. Ouais. Mais Bernard Hinault avait réussi. Donc, voilà, on se souvient de Jacques Anquetil également, qui avait tenté ça. Mais, c'est quelque chose de très, très difficile, parce qu'effectivement, les périodes de récupération sont très courtes entre le Giro et puis le Tour de France. C'est bien qu'on voit quand même que cette année, le Giro arrive quand même un peu plus tôt que d'habitude. Il y a à peu près une dizaine de jours par rapport aux dates habituelles de l'époque qui pourront peut-être permettre une récupération pour les coureurs par rapport à ceux qui feront également le Tour de France. Voilà.
Et sur Twitter, notre ami Antares33 qui nous dit on lit Libé à Radio Vélo. Non, mais c'est incroyable ça, Guillaume. Qu'est-ce que t'en penses là? T'as survolé ça, j'ai vu.
Ouais, j'ai survolé. Après, c'est toi qui lis Libé.
Non, après, non, moi, je ne suis pas abonné. D'ailleurs, on est en train de leur faire une pub phénoménale. Ils vont bientôt nous subventionner. Ils vont nous aussi. Enfin, en fait, il y a des passionnés de vélo qui font des bons papiers de vélo dans Libé. C'est pour ça que je les cite. Hein, notre ami Baptiste aussi qui écrit parfois.
Quand il y a de bons articles, faut pas hésiter à le citer, quel que soit le journal. Mais
exactement.
Après, c'est vrai que
On est plus le petit journal à Dépêche, je le sais ici. Bon.
Après, j'ai lu rapidement Diagonale. C'est vrai que, comme dit Pierre Carré, le Giro est en train de retrouver un peu de peps, on va dire, par rapport au Tour de France. Mais c'est vrai que ASO a fait beaucoup pour le Tour de France, pour le médiatiser, tout ça. Le Giro était peut-être en retard là-dessus, mais c'est vrai, c'est en train de changer. Ça devient vraiment une course incontournable. Alors après, il y a toujours la difficulté d'enchaîner pour les coureurs Giro Tour de France. Mais effectivement, c'est une course très intéressante avec des cols, comme tu l'as dit, très très pentus, très très longs. C'est vrai que ça reste quand même une course mythique.
Ouais.
Mais il y a quelque chose qui me fait excessivement plaisir, c'est quand tu parles effectivement qu'on parle du cyclisme dans un journal qui est pas un journal de sport comme l'équipe ou comme Libération par exemple, parce qu'avant, à la grande époque du cyclisme, justement dans les années 50, mais tous les journaux effectivement après chaque course une page entière de cyclisme. Moi, je me rappelle avoir lu des journaux par exemple comme La Dépêche qui avait une page entière sur le cyclisme après les courses, comme L'Humanité qui avait des grands correspondants de cyclisme. Tous les grands journaux donc d'information générale avait une information cycliste, alors que maintenant, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a sur les gratuits, il y a une petite photo de Paris-Roubaix et puis deux trois mots, quoi, pas grand chose. Mais donc c'est bien effectivement pour le cyclisme que ça revienne dans les grands journaux d'information générale, parce que le cyclisme, c'est pas que les chaînes cryptées et puis Twitter et tout ça, c'est un petit peu tout.
Après, voilà. La presse écrite, on sait très bien qu'il y a du mal à trouver des journalistes, enfin à payer des journalistes, je pense. Donc c'est un peu ça la difficulté. Après, je pense qu'il y a des gens très compétents. Là, Pierre Carré qui fait un très bon papier. Voilà, il y a des gens très compétents. Après, voilà.
Mais voilà, il faut pouvoir participer en étant libre, en n'ayant pas forcément besoin de gagner sa vie grâce au papier, grâce au journalisme. C'est ça qui a changé aussi, Philippe. Hein, parce qu'avant, j'imagine que les grands journaux, ils envoyaient 4-5 mecs là, payés à temps plein, et se balader sur les courses.
Parce qu'avant, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que le Tour de France a été créé. Hein. C'était pour faire vendre des journaux, effectivement. Donc avant, le cyclisme se faisait vendre, effectivement. Le cyclisme était très, très populaire. Hein. Il y avait énormément de gens le bord des routes. La moindre course, effectivement, c'était noir de monde. Maintenant, quand je regarde une épreuve, même à la télé, effectivement, à part peut-être les secteurs pavés de Paris-Roubaix ou des choses comme ça, je vois pas beaucoup le monde de le bord de la route, à part peut-être les 20 derniers kilomètres. Mais avant, effectivement, les courses étaient noir de monde, effectivement. Et ils étaient attirés parce qu'ils disaient ça dans le journal. Même le journal du coin. Et on remarque par contre que dans les pays du cyclisme comme la Bretagne, des régions de cyclisme, des régions qui sont très très imprégnées de cyclisme. Et je lisais dernièrement une enquête dans Vélo Magazine où on disait que la Bretagne était la deuxième région cyclisme, je crois après Rhône-Alpes. Voilà, Rhône-Alpes était la première. Mais dans ces régions-là, effectivement, il y a encore dans les journaux locaux des pages de cyclisme. Donc on voit effectivement que le cyclisme est vraiment imprégné dans le jeu local que la population.
Guillaume, tu voulais rajouter par rapport au propos de Philippe ?
Non, c'est vrai qu'on a plus de journalistes comme vraiment spécialisés dans la presse écrite, dans le cyclisme, comme il y a eu du temps des débuts du Tour de France. Il y a eu Henri Desgranges qui a créé le Tour, et après j'ai perdu le nom, je m'excuse, des grands journalistes qui écrivaient.
Il y a eu des très très grands, il y a eu par exemple Pierre Chani qui écrivait à l'équipe, Antoine Blondin, effectivement, la chroniste d'Antoine Blondin, c'est même devenu de la littérature. Moi je connais des gens qui s'intéressent pas tellement au cyclisme, mais au livre et à la littérature, et ils disent Antoine Blondin c'est des chefs-d'œuvre, quoi, même au point de vue littéraire. Voilà, donc c'est là que le cyclisme même devient, le journalisme cycliste devient un art, effectivement, et c'est des gens qui aiment bien les lettres beaucoup mieux que moi qui le disent, donc voilà.
Voilà, c'est à eux que je pensais, effectivement, des journalistes qui arrivaient vraiment à transcender, à retranscrire la course presque poétiquement. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être moins de journalistes comme ça à l'heure actuelle, c'est peut-être dommage, donc mais bon, voilà, on peut quand même souligner Pierre Carré qui a fait un très bon papier. Bon, après on est habitué, c'est un spécialiste, hein.
Et il fait tellement du bien au cyclisme.
Allez, quelques tweets, alors que vous pouvez aussi nous passer un petit coup de fil si vous voulez passer à l'antenne, on peut discuter un petit peu de ces deux sujets dans cette première partie. Après on passera un coup de fil Alexis Guérin justement pour avoir de ses nouvelles du cyclisme amateur, et on aura Max également dans la seconde partie pour parler du cyclisme amateur. Steph Fifi -S-Mind, décidément il y a des pseudos un peu compliqués quand même. Débat très intéressant sur le cyclisme avec l'accent du rugby, j'adore. On le remercie à Steph Fifi pour ce petit commentaire. On lit également quand on voit que des émissions de sport dites généralistes ne parlent presque jamais de vélo ou avec des journalistes de foot, en effet ça fait râler. Puis Antares qui nous cite d'autres journalistes, j'imagine Besson, Augendre, c'est ça Philippe?
Ah oui, Emile Besson effectivement, qui était journaliste de l'Humanité, du Miroir du cyclisme, c'est effectivement qui faisait des papiers tout à fait extraordinaires. Et Jacques Augendre qui est le plus vieux, je crois, journaliste encore en vie sur le Tour de France. Il a fait son premier tour, je crois, dans les années 50, je crois 1953, et puis il les a tous couverts. Donc vraiment, c'est des mémoires du cyclisme. On peut citer également, bien sûr, d'autres grands noms comme Alex Viro qui faisait de la radio Luxembourg, fabuleux Alex Viro. Et puis Jean-Paul Brouchon sur France Inter plus récemment, un grand journaliste radio qui nous a quitté malheureusement victime du cancer il y a quelques années. Mais s'il nous faisait vraiment vivre, je me rappelle moi tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, les flashs en direct du Tour de France, c'était fabuleux, on le vivait vraiment. Voilà. Voilà, et Georges Bruyquet, bien sûr, Georges Bruyquet qu'on avait signalé, enfin, qui c'était même lui qui était le photographe de l'instantané, c'est-à-dire qu'il arrivait à décrire la course et décrire également le paysage dans lequel passaient les coureurs, et combien d'enfants ont appris la géographie française avec lui.
Exactement, Philippe. En tout cas, le Giro 2015 est lancé, un cru très attendu, avec notamment la participation d'Alberto Contador, avec également Richie Porte, qu'on peut citer parmi les favoris, Fabio Aru, l'une des nouvelles coqueluches du cyclisme italien, et puis Rigoberto Urán, qui reste sur plusieurs podiums ces dernières années. Il y avait également un autre favori, du moins dans la course au podium, le cinquième du général l'an dernier, Domenico Pozzovivo, le petit grimpeur de poche de l'équipe AG2R de la Mondiale, qui avait bien préparé son affaire et qui avait joué de malchance hier déjà, et aujourd'hui ça aurait pu être beaucoup plus grave, Guillaume.
Ouais, il a chuté hier en raison d'un spectateur, est-ce qu'on peut appeler ça un spectateur, qui s'est mis, qui a voulu apparemment en vélo rejoindre le peloton et prendre la roue, sauf qu'il a fait chuter plein de coureurs dont Pozzovivo. Et aujourd'hui Pozzovivo, dans une descente très très rapide, alors moi j'ai vu les images, apparemment la roue avant serait, il aurait perdu de la roue avant. Et c'est la tête qui a touché en premier le sol, donc une chute assez lourde. Alors apparemment pas, on va dire pas trop grave, ouais, entre guillemets.
Il souffrirait d'un traumatisme facial et un traumatisme crânien relativement modeste selon le médecin chef du Giro, ce qu'on peut lire par exemple sur l'équipe.fr. Mais c'est vrai que quand on se souvient qu'il y a 4 ans on a perdu Wouter Weiland sur le Giro, c'est des images qu'on n'aime pas voir.
Ouais, voilà, c'est des chutes qui, quand elles se produisent comme ça à très très haute vitesse, c'est toujours impressionnant et puis dangereux pour les coureurs. Et là, Pozzovivo, finalement, il s'en sort quand même, on va dire, plutôt bien, parce que même si c'est un traumatisme facial important, il y a pas, son pronostic vital n'est pas engagé. Donc, mais c'est vrai que c'est dommage pour la course. Parce que ben voilà, le coureur d'AG2R avait bien préparé son affaire et là out.
Out, voilà, un favori de moins, bien évidemment, mais beaucoup de solidarité autour de cette chute. Ça aurait pu être plus grave, en tout cas, on est content d'avoir eu des nouvelles. Somme toute, plutôt rassurante, si l'on peut dire ça. Comme ça, le Giro, bien, c'est le maillot rose qui s'est imposé aujourd'hui, rien d'autre que ça. Michael Matthews, l'Australien de l'équipe Orica Greenwich, qui avait déjà dominé
le
chrono par équipe. Guillaume, c'est vraiment une des équipes spécialistes de cela, on sait qu'ils ont des coureurs vraiment pour ça. Ils sélectionnent l'équipe aussi par rapport à ça.
Ouais, voilà, ils sont très, très, très au point sur les contre-montres par équipe. Donc, bah là, ils ont remporté la première étape. Après, à voir ce que ça va donner en montagne. Je sais pas trop. C'est vrai que je suis pas très au fait vraiment de tous les coureurs. Je suis pas spécialiste à ce niveau-là. Ouais.
Aujourd'hui déjà il y avait quelques difficultés, c'est vrai, ouais. Que c'était pas un sprint tout plat, il devance quand même des gars qui passent bien les petites difficultés, mais c'est vrai que c'est un sprinteur qui passe le mieux les bosses.
Voilà, après un peu plus tard dans la semaine et les jours à venir, c'est pas des simples bosses, donc
non.
Là ça va être un peu plus compliqué face à des coureurs comme Contador ou Froome. D'ailleurs, ouais. Pour parler de Froome,
oui.
Je sais pas si vous avez vu, il dort pas à l'hôtel comme les autres coureurs.
Non, pourquoi Froome fait le Giro en fait?
Non, c'est Porte, excusez-moi.
Richie Porte.
Oh là là. Porte, ouais, donc on dort pas avec les autres coureurs à l'hôtel, il dort dans son camping-car.
D'accord, il se la joue à Vauclair.
Je sais pas si c'est ça, mais en fait, apparemment, l'explication de l'équipe, ça serait pour pas qu'il change de lit tous les jours, qu'il soit pas dérangé par les bruits dans l'hôtel, etc. Donc,
bon.
Voilà, apparemment, il prépare les choses à fond. Ça fait un peu, je me mets de mon côté tout seul.
Ah, mais tu imagines un Tour de France où les 200 coureurs amènent leur camping-car. C'est très écolo comme sport, hein, maintenant.
Déjà qu'il y a beaucoup de camping-cars sur le Tour de France avec les spectateurs, c'est vrai que plus si on rajoute 200 camping-cars pour les coureurs, ça va être très compliqué à gérer.
Je suis sûr que c'est une nouvelle idée qui va plaire à ceux qui viennent nous rejoindre. Max qui nous rejoint à Radio Hello, salut.
Salut, désolé du retard, mais je vous ai ramené une petite surprise pour vous, pour m'excuser.
Et c'est vrai que ça sent un peu
le fromage.
Parce que on va se régaler après l'émission. Bon, t'es pardonné, Max, du coup.
Voilà. J'essaie
d'y faire. Bon, tu vas avec un camping-car toi aussi sur les courses? C'est un beau bazar si tout le monde en prend. Je sais qu'il y a des équipes qui en ont un, mais pour toute l'équipe, quoi. Ils dorment pas dedans.
Écoute, le camping-car, non. Après, je suis pas contre. Par contre, on l'avait 24 heures du Mans vélo, je me rappelle. Donc, mais bon, oui, il faut être tout seul, hein, parce que nous, on était 4 dedans. Donc, mais tout seul, pourquoi pas? Mais bon, après, c'est sûr que ça va faire parler, l'image va être différente et tout ça. Quoi.
Ouais, et puis bon, quand même.
C'est le statut quand même.
C'est pas un sport, collectif entre guillemets, le vélo. Ouais, c'est pas une équipe de foot ou de rugby, mais quand même, c'est important de partager quelques moments, j'imagine, à l'hôtel.
Généralement, oui, c'est deux par chambre minimum. Mais bon, mais s'il enlève ça. Après voilà, quand même derrière, il y a quand même un statut à défendre. Lui, il a quand même le palmarès derrière, mais bon, c'est pas l'image normande du vélo. Quoi.
Il va tenter de remporter son premier grand tour, Richie Porte, Philippe.
Mais ça peut se. Enfin, excuse-moi, je reprends parce que je voulais terminer.
Est-ce qu'il y a Madame dans le camping-car aussi?
N'importe, ça peut se comprendre au niveau des excuses parce que c'est sûr de changer tous les jours d'hôtel, tous les soirs. Les lits sont différents. Je sais qu'il y en a qui dorment avec des oreillers un peu particuliers, donc c'est vrai que ça peut se comprendre. Après.
Il y en a même qui dorment pas apparemment. Ouais. Bref, Philippe.
C'est vrai que ça change un petit peu l'image du vélo, parce que l'image du vélo, c'est effectivement les hôtels dans les coureurs, dans des hôtels, et souvent quelquefois des hôtels même très modestes, hein. Et là, effectivement, on voit des camping-cars, on voit une équipe qui roule effectivement avec des voitures suiveuses qui sont des Jaguars. Camping-car Jaguar, ça me fait penser plutôt aux 24 heures du Mans, auto, où effectivement il y avait des gens fortunés qui venaient courir et aligner des voitures. C'est pas vraiment l'image du cyclisme. Donc peut-être effectivement le cyclisme change un petit peu, d'image, avec également une très très grande importance du matériel. Effectivement, on voit les vélos de plus en plus chers, de plus en plus sophistiqués. Voilà, peut-être que ça change un petit peu, je ne sais pas.
Mais après, s'il gagne le Giro,
ma foi,
pourquoi pas. Après, s'il gagne pas...
Bon, il peut le gagner ou pas le Giro?
Moi, j'arrête les pronostics. Depuis que j'en fais, c'est catastrophique.
Bon, il y a Contador, il y a plus Pozzo Vivo. On disait qu'à abandonner. Max, tu nous rejoins.
J'ai pas écouté le début de l'émission parce que j'étais en voiture.
Il y a Ouran, il y a Roux.
Mais j'ai vu une vidéo circuler là cet après-midi. Un coureur amateur qui est passé. Je sais pas.
C'était hier. Il y a un coureur amateur qui a voulu effectivement se mélanger au peloton et qui a fait chuter plusieurs coureurs, dont Pozzo Vivo.
D'accord.
Et malchance aujourd'hui, Pozzo Vivo dans une descente très rapide.
C'est ce que j'ai vu aussi.
Ouais, là, il a perdu de la roue avant et
donc du coup, j'avais vu aussi le briefing d'AG2R qui était sur Eurosport là, si on peut citer, qui était intéressant. Et bon, je pense que là, ils vont fort qu'ils revoient toutes les tactiques.
C'était le leader de l'équipe, donc effectivement faut tout revoir, je pense.
Mais ça peut les libérer aussi. Hein, ça va laisser des cartes à d'autres. Et rappelez-vous une époque au Tour de France.
Enfin, ce type de personnage, c'est pas tellement pour moi. Un coureur amateur, c'est plutôt un imbécile professionnel, effectivement, parce que c'est pas très gentil pour les coureurs amateurs, mais.
Parce qu'il n'y a pas de contrat, donc.
Voilà, pas de contrat, pas rien, une tenue un peu bizarre, un fixie, puis voilà.
Coupure pub, messieurs, on revient tout de suite dans Radio Vélo, ensemble jusqu'à 21h.
C'est ta radio.
Pop. Rock. Sport.
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport.
Allez, on se retrouve en direct dans Radio Vélo. Et oui, condition un petit peu particulière aujourd'hui. Mais l'équipe est là, c'est ça, Max, quand même. T'es au rendez-vous?
Je suis au rendez-vous. Je suis pas en canne, mais bon, il faut y aller, quoi. C'est comme des courses à étapes. Des fois, il y a un jour sans, mais il faut quand même être là, quoi.
Ah oui, non, des fois, faut y aller.
Ça marche mieux que la semaine dernière.
D'ailleurs, on
s'excuse auprès des auditeurs qui nous attendaient apparemment nombreux la semaine dernière, mais voilà, problème technique. Pas d'ADSL, donc, pour une web radio.
Ça le fait pas trop.
Voilà, ça le fait pas.
Bon, du coup, on a notre invité de la semaine dernière qui est avec nous. J'espère qu'il nous entend bien et qu'il a fini son petit dessert. Alexis Guérin, est-ce que tu nous entends?
Super bien, super bien.
Bon, on t'a pris un peu de cours là. On a pas tenté l'échapper, mais bon, tu es bien présent, c'est ça?
Ouais, ça va, j'ai fait du ravito.
C'était l'heure du ravito. Alexis Guérin, donc de l'équipe AWT Greenway. Ben Alexis, tout d'abord peut-être replacer le contexte. Est-ce qu'il y avait course ce week-end, ou est-ce que tu trouves, est-ce que tu es à la maison?
Non, je courais pas ce week-end là. Je suis à la maison. J'ai fait comme avant la Bretagne, 15 jours sans course, et puis je vais enchaîner sur le Tour de Picardie et Paris-Arras.
D'accord, donc des beaux rendez-vous à l'image. On imagine, en tout cas, on voulait savoir un petit peu, prendre de tes nouvelles, du coup, d'un Radio Vélo. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on te suit, époque en temps de suite Gascogne, Ronde de l'Isard, tout ça. Et c'est vrai que être dans la réserve de la grande équipe Etix, on imagine que c'est un petit peu particulier, et c'est aussi très professionnel, c'est ça Alexis?
Exactement, c'est assez professionnel. Cette année, je suis bien bien cadré. Et il m'habitue à faire un peu comme les coureurs du World Tour, à plus fixer mes objectifs et donc à courir un peu moins et être plus présent sur les courses où je suis.
C'est vrai que peut-être qu'on peut faire aussi le point sur ton début de saison. Est-ce que tu es satisfait? Ça s'est passé comme tu voulais?
Non, je suis très déçu de mon début de saison. J'avais bien commencé en Croatie. J'ai été très performant, plus performant qu'on le pensait en Croatie. Et en fait, en rentrant de Croatie, j'ai fait peut-être un peu trop attention à ce que je mangeais et j'ai voulu un peu trop en rajouter au niveau de l'entraînement et j'ai attrapé la grippe.
D'accord.
Donc, j'ai resté 4 jours au lit avant le Normandie et j'ai voulu quand même enchaîner sur le Normandie pour pas perdre d'entraînement. Et c'est là où j'ai fait la bêtise. Et du coup, je suis retombé malade avec une gastro et il m'a fallu 3 semaines pour récupérer.
À mes côtés, Max, peut-être une question, d'autant que tu as peut-être couru avec Alexis ou tu l'as vu pas trop loin.
Si, oui, bien côtoyé chez les amateurs. Il y a quelques semaines, on avait un bon débat sur Alaphilippe, là, vu que la grosse progression qu'il a faite, et sachant qu'il était passé lui aussi par la réserve, est-ce que toi, ça te donne des idées par rapport à la suite? Ça te motive ou je sais pas, autre?
Bon, bien sûr, ça motive, surtout que c'est un copain, donc ça me motive pouvoir aller avec lui, apprendre à ses côtés, puisque... On a fait les Europes ensemble il y a 3 ans maintenant. On s'était promis qu'un jour on courrait ensemble, donc ça motive de pouvoir le rejoindre et l'accompagner à gagner, cette fois-ci à gagner et pas à faire deux.
Et au niveau de l'encadrement, est-ce que vraiment ils te mettent à l'aise au niveau du futur? Est-ce qu'ils te projettent sur l'avenir? Ils te montrent comme quoi ils veulent quand même te conserver? Donc mentalement, je pense que ça peut t'enlever un poids. Ou est-ce que t'es quand même, tu penses que tu vas être à la fin de saison à réfléchir, voire pour la saison suivante?
Non, non, ils me mettent vraiment, vraiment à l'aise. On a fait des tests physiques en début d'année. Et l'entraîneur était plutôt content de moi, donc ça avait l'air d'aller. Puis le directeur sportif, moi je suis plutôt inquiet parce que voilà, il me reste ma dernière année, il me reste qu'un an de contrat. Le directeur sportif n'arrête pas de dire non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème avec toi Alexis, il est satisfait de moi à chaque course, il est content, donc non, j'ai pas d'inquiétude particulière.
Pas d'inquiétude particulière. On parlait de Julien Alaphilippe, que tu dis bien connaître. Est-ce que ça a été une surprise pour toi de le retrouver là sur deux podiums des Ardennaises, là comme ça, deux fois d'affilée, dès 2015 est-ce que tu savais qu'il pouvait faire un gros truc, ou ça a été quand même l'énorme sensation pour toi aussi?
Je savais qu'il pouvait faire un gros truc, mais il y a la première, quand il va faire deux au mur, là franchement c'est la grosse surprise.
Ouais.
Quand tu vas faire deux derrière Valère, là c'est la grosse surprise. Là, Liège et l'Amstel, c'est pas forcément surprenant parce que l'Amstel c'est bien pour lui, ça c'est dur et ça redescend dans les jeux pour plein de fondants après, donc c'est bien pour lui. Et Liège, c'est assez pour lui aussi. Mais là, le mur de 8, il m'a vraiment surpris.
À nos côtés, Guillaume également, peut-être une question pour Alexis.
Oui, bonjour Alexis. Deux questions. Tu parlais que tu avais fait récemment des tests donc avec l'équipe. Est-ce que tu peux nous citer quelques chiffres qui ne sont pas confidentiels, style VO2, PMA ou pas? Qu'est-ce que ça donne?
Après, les tests de PM, qu'on fait sur la PMA, nous, c'est Citus, c'est différent. En France, on fait des tests sur des paliers de 2 minutes ou 4 minutes. Et nous, on fait des paliers de 8 minutes. C'est-à-dire on commence à 100 watts, et toutes les 8 minutes, on augmente de 40 watts. C'est quand même un test quelconque. Et moi, je valide le palier 420. J'explose au palier 460. Mon record, c'est 2 minutes dans le palier 460.
Ouais, donc, après, ouais, c'est vrai que, comme tu dis, effectivement, c'est pas trop comparable par rapport à ce qu'on fait en France, mais au moins, ça permet de situer à nos auditeurs à peu près par rapport à eux, toujours.
Voilà. Après. Qu'est-ce que je pourrais dire? Après, c'est pas pareil, des valeurs différentes, comme le fat threshold, tout ça, c'est différent de la France, mais je sais pas, en aérobie, je crois que ça me fait du 380 ou quelque chose comme ça, je crois.
D'accord.
390, 380.
Et au niveau volume d'entraînement, à ton niveau, comment ça se passe? Quel volume horaire tu as en semaine? Comment tu travailles? Est-ce que c'est avec capteur de puissance, je suppose, etc.?
Ah, oui, moi je travaille au capteur de puissance. Donc je fais en fonction du capteur. Il y a des entraînements d'endurance, certains entraînements d'endurance où je ne dépasse pas un seuil de watts pour justement taper dans mes graisses et augmenter ma caisse. Et au contraire, d'autres fois, les intensités avec du derrière scooter. Et au niveau quantité, ça dépend. Comme là, quand je cours pas pendant 15 jours, la première semaine, je fais en moyenne entre 20 heures et entre 18 et 22 heures d'entraînement en moyenne.
D'accord.
Comme là, je vais vous dire une semaine type, c'est cette semaine-là. Lundi, je fais 1 heure. Mardi, je vais faire 2 heures avec quelques petits des gros sprints ou des longues intensités derrière scooter. Mercredi, je fais 3 heures avec une demi-heure de scooter. Jeudi, j'ai été faire 2h30 avec 15 sprints en boss, mais 15 sprints de 300 mètres. Vendredi, j'ai fait 1h30 à jeun, l'après-midi 2h d'endurance. Et samedi, par contre, j'ai fait 6h, dont 5h d'endurance. Et dans les 5h, je faisais un sprint toutes les heures et la dernière heure derrière scooter. Et derrière le scooter, après, c'est je regarde pas le compteur, là. C'est mon père, il se cale à 50 à l'heure sur le plat. Et dans les bosses, quelquefois, il ralentit un peu quand il sent que je suis dans le dur.
Bon, Max, tu sais ce qu'il te reste à faire?
Oui, non, je suis loin de ça. Non, par contre, c'est la fin, quand il dit qu'il n'y aura pas le compteur, on reconnaît un peu qu'on le surnommait en amateur, un peu, un mulet, tout ça, donc, qui était bon en chrono, là, je vois bien un peu le profil et comment ça se passe, quoi.
Et le dimanche, j'ai fait 3 heures, mais là, j'étais un peu moins bien dimanche, donc j'avais 4 heures. Mais faut quand même se connaître, et quand on fait de longues heures comme ça, et vu que j'étais un peu fatigué, j'ai fait 3 heures et je suis rentré à la maison. Donc.
Bon, et donc, même en étant dans cette équipe tchèque, mais basée, j'imagine, en Belgique, non? C'est ça?
Le service course est en Belgique.
Ouais. Et donc, du coup, toi, est-ce que tu as pu rester chez toi en France tout au long de l'année pour t'entraîner?
Bah, dès que les cours sont finis, je rentre à la maison chez mes parents en ce moment.
D'accord.
Je vacances chez mes parents à la campagne, je me ressource un petit peu et je connais les routes d'entraînement, je m'entraîne avec Thomas Bouda et Lucas Destin.
D'accord, bon, des jeunes champions également. Guillaume, en tout cas, tu as suivi vraiment attentivement ce que nous a dit Alexis. C'est intéressant de voir comment s'entraîne un espoir du cyclisme français comme ça.
Oui, parce que c'est vrai que on connaît un tout petit peu comment les pros s'entraînent, mais c'est vrai que là, c'est pas très loin d'un entraînement de coureur pro, et ça montre qu'effectivement c'est un métier, parce que voilà, c'est tous les jours, et même si c'est que 2 ou 3 heures, après il y a de la récupération, etc. Donc beaucoup de gens l'oublient, voient que le Tour de France, mais c'est un métier.
Philippe, est-ce que tu as une question pour Alexis?
Non, une question, non, mais une remarque, parce qu'effectivement, on remarque qu'avant, moi, je fais un petit peu l'histoire du cyclisme, les coureurs s'entraînaient pas beaucoup derrière un scooter ou derrière une moto. Et le premier qui l'a fait, ça s'entraînait derrière une moto, effectivement. Et on a vu les résultats que ça donnait après dans le Tour de France et dans les autres courses, effectivement. C'était Jacques Anquetil qui faisait systématiquement des entraînements derrière moto, derrière un scooter, effectivement. Voilà, maintenant, effectivement, le moindre coureur amateur, c'est devenu très, très technique, tout ça, et ils font des entraînements derrière des scooters, voilà. Mais avant, on s'entraînait contre le vent, on roulait point final, point barre, et voilà.
Et justement, Alexis, c'est vrai que dans les coureurs pro, les coureurs espoirs, il y en a, ils sont férus d'histoire du cyclisme, ils ont des gars qui suivaient plus petits, ils connaissent toutes les dates et tout. Et il y en a pas du tout, ils suivaient pas du tout le cyclisme avant. Ils se situent où déjà, Alexis Guérin, là-dedans?
Dans les gens qui suivaient pas du tout le vélo.
D'accord.
C'est Lucas Destin qui m'a amené au vélo, donc avant ça, moi j'étais footeux, mais à 100% je voulais devenir professionnel au football, donc...
D'accord, donc...
Quand j'ai commencé le vélo, on m'a parlé de Bernard Hinault, j'ai regardé le bonhomme, et j'ai dit je veux devenir comme lui, le même caractère en fait. Pas le même coureur, mais le même caractère, parce que le palmarès est assez trop grand pour moi.
Bon, et tu es venu au vélo à quel âge à peu près?
J'avais 16 ans et demi.
Ouais, comme quoi, même en commençant tard, on arrive à avoir des résultats.
Enfin, je pense que c'est, enfin, je connais pas grand chose, hein, mais c'est quand même le bon âge, parce que si on démarre super tôt, il y en a beaucoup qui arrêtent justement à 16 ans ou 18 ans.
Oui, qui sont lassés.
Ouais, là, c'est fatigué, là au moins, il a pas vécu tout ça, t'arrives, t'es frais, j'ai envie de dire, donc je pense que voilà.
Ah, puis on apprend encore.
Voilà. Enfin,
le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont commencé tôt, et quand ils arrivent à 18, 19 ans, ils pensent déjà connaître le vélo. Sauf que le vélo, il commence quand on passe. Quand on sort des amateurs, le vélo commence. Le vélo amateur,
oui.
Et le vélo professionnel, c'est différent. Pour moi, il y a des choses qui changent. C'est différent.
Déjà, là, entre moi et lui, moi qui suis encore amateur et lui qui est quand même au-dessus, rien que quand il dit la semaine qu'il fait niveau entraînement, moi déjà, c'est divisé par deux. Et après, par rapport à ce qu'il doit manger, voilà, c'est aussi divisé par deux au niveau du job. Donc, c'est sûr que, comme tu dis, c'est dès qu'on passe au-dessus, quoi.
Bon, Alexis, on va te remercier, parce que c'est vrai qu'on t'a pris un peu de cours du coup ce soir, mais en tout cas c'était très intéressant.
Non, mais pas de problème, c'est avec plaisir.
De pouvoir
avec
parler plaisir. Librement, peut-être savoir quand même les objectifs que tu te fixes pour la suite de la saison. Est-ce qu'il y a un rendez-vous plus qu'un autre que tu attends, par exemple?
Là j'ai une course en Autriche, l'Oberschrundfahrt, ça s'appelle.
D'accord.
C'est un de mes objectifs, c'est début juin. Juste avant ça, j'aurai le Tour de Slovaquie où un top 10 général est possible. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'arrivées au sprint, c'est beaucoup d'arrivées en descente.
D'accord.
Il y a des cols, mais c'est des arrivées en descente. Alors faire l'écart dans les descentes, c'est compliqué. Et après, il y aura le championnat de France.
D'accord, championnat de France auquel tu participeras du côté de Chantonnet, si je me souviens bien.
Exactement.
Avec après, le chrono aussi ou pas au championnat de France?
Le chrono, on est en train d'en discuter avec mon équipe, on ne sait pas encore. Mais il y a de grandes chances que je sois au chrono, bien sûr. Ouais. Quand même.
Bon, c'est de beaux rendez-vous, en tout cas on sera là pour te suivre de près du côté de Chantonnet. Alexis, on te souhaite une bonne continuation, et puis merci de prendre toujours quelques minutes pour donner de tes nouvelles dans Radio Vélo. Moi, c'est vrai que Alexis Guérin, c'est pas mal associé à Karl Abeil, hein, sur une ronde de l'Isard, c'est ça Alexis, hein.
On m'en parle encore.
Bon, déjà c'est vrai que l'arrivée était magnifique, de par la course, mais aussi de par le cadre, parce que c'est un petit village perdu au milieu de nulle part, hein.
C'était ma première 2.2 espoir, il me semble.
Voilà, donc c'est...
C'était beau, c'était pour Dominique, il voulait absolument qu'on en gagne une, on a gagné la première étape et la deuxième ce jour-là, et la troisième ce jour-là.
C'est vrai, c'était une très très belle ronde de l'Isard, la ronde de l'Isard qui va avoir lieu dans maintenant une semaine, hein, c'est le week-end d'après. Tu vas jeter un œil quand même à la ronde de l'Isard, Alexis?
Ouais, je vais jeter un œil, j'ai même donné des conseils à un coureur de Rabobank.
Ah, d'accord. Et d'ailleurs, t'as un favori pour la Ronde de l'Isère, tant qu'on y avait les petites notes?
Non, j'ai pas trop regardé les.
Non,
les
pas encore.
Les grimpeurs qui pourraient la gagner, j'ai pas trop regardé. Je pense qu'en France, il y aura peut-être Monsieur Bouchereau qui sera pas loin.
Oui, Loïc Bouchereau qui sera là avec Vendée U.
Je pense qu'il sera pas loin.
D'accord.
Je mettrai une carte sur lui. Je sais pas si Lilian l'a fait ou pas.
Dans la startiste qui est passée aujourd'hui, il n'était pas, il n'est plus espoir. Ouais.
Il est senior.
Senior, ouais.
Ah, il n'est plus espoir, d'accord.
Il est trop grand.
Mais top 16, il y en a aussi 2-3 pas mal avec Chambéry. Ouais. Il y en a encore 2-3 qui sont pas mal.
Il y aura Chambéry, oui, avec Peters, non?
Ouais, Peters, si il y en a une aussi de top 16, mais bon, ça grimpe quand même fort. Je sais pas s'il aime ça l'école, mais on verra bien.
J'ai vu qu'il n'y avait pas les Colombiens, par contre.
Non, pas de Colombiens, pas trop d'Espagnols. C'est vrai que cette année, ils n'ont pas pu venir. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça devrait être sympa quand même.
J'ai oublié Guillaume Martin et Jérémy Maison de l'équipe.
D'accord.
Il est en train de regarder en direct.
Ah, hein. Si, ouais, il a mis le site de Direct Vélo en même temps.
Parce que moi, je pense que si l'équipe vient, ils ne viennent pas pour rien. Parce qu'ils ne sont pas venus depuis Kenny, ils ne reviennent pas pour rien.
D'accord,
oui, c'est sûr. Ouais.
D'accord. Bon, mais merci Alexis en tout cas pour tes conseils avisés, puis ta bonne humeur, c'est toujours un plaisir. On te dit à bientôt dans Radio Vélo, Alexis.
À bientôt, avec plaisir.
Merci.
Merci.
À bientôt, salut. Bonne soirée.
Ciao.
C'était Alexis Guérin en direct dans Radio Vélo, Guillaume.
Ouais, très intéressant. C'est vrai que de voir au moins comment s'entraîne un coureur de ce niveau-là, qui est pas encore à l'échelon pro, mais qui n'est pas loin. Et voilà, Max, t'en es loin.
Encore une fois, ça confirme que je peux pas aller au-dessus, quoi. Rien qu'au niveau de ce que ça demande, voilà, déjà, il faut être prêt à faire ça, quoi.
C'est vrai que moi, je l'ai souvent dit, hein, les coureurs pro font rêver quand on les voit à la télé, mais il y a énormément de contraintes derrière, même à ce niveau-là,
Les meilleurs amateurs font à peu près le même programme, enfin, voilà, ils roulent autant, les plus gros amateurs qui ont vraiment le temps de faire ça, quoi. Ceux-là, il faut être disponible toute la semaine, hein.
Voilà.
Faut pas avoir de contraintes à côté, donc, mais bon, c'est sûr, hein, là, il les prépare pour aller au-dessus, donc c'est la logique.
Ça se fait pas comme ça, on n'en arrive pas au niveau supérieur en restant devant la PlayStation ou autre.
Mister Philippe.
Ouais, juste une petite anecdote historique. Effectivement, il nous disait qu'il rêvait de foot, effectivement, avant de vouloir devenir coureur cycliste, un bon coureur cycliste. Eh ben, il y en a un ou d'autres qui ont fait comme ça. C'est, par exemple, Louison Bobet qui joue au foot avant de devenir grand coureur. Et également, Roger Rivière, le grand coureur stéphanois, qui était supporter de Saint-Etienne et qui avait joué au foot, effectivement, qui aimait ça. Et un autre, par contre, qui rêvait de vélo et qui a bien réussi dans le foot, c'est Giroud, parce que lui, il rêvait à être coureur cycliste avant de devenir entraîneur de football.
Mais il y en a beaucoup, hein, des jeunes là, même moi j'en ai dans l'équipe qui était au centre de formation du Mans. Il y a aussi Antonin Servant du top 16 qui avait un très bon niveau au foot. Il y en a beaucoup qui ont arrêté le foot, je dirais, vers l'âge de 15 ans, ils se sont mis au vélo juste après, quoi.
Bon, et ben en tout cas, ça promet une belle suite, on espère, pour Alexis Guérin. Guillaume va étudier les statistiques, apparemment. Tiens, je me tourne vers Max, parce qu'on va continuer sur le cyclisme amateur, hein. On fera ensuite la chronique matos et puis également la petite rétro de Philippe, pour terminer avec une page Giro. Max, t'as suivi de près, et puis d'ailleurs, tu étais sur des courses, c'est ça, ces derniers jours, hein.
J'ai suivi de près, mais j'étais pas sur les courses qui sont, enfin, les courses à étapes amateurs qui avaient, on va dire, fin de semaine avec le jour férié, qui ont démarré le jeudi, si je me trompe pas. Et c'était, donc, il y avait l'Essor Breton et le Tour de la Manche, donc c'était pas si loin que ça les deux courses. Donc ça fait quand même, je sais pas, on va dire 20 équipes au maximum par course, donc ça fait du monde en amateur qui courait, et il y a eu de beaux résultats. L'Essor Breton a été gagné par Daniel Aurélien devant Botrel Yann et Erwan Corbel de l'UDEA, qui marche très très fort cette année. Qui d'ailleurs, l'UDEAC en Coupe de France DN2, ils sont très très forts. Il y a encore la quatrième manche qui arrive ce week-end, qu'ils avaient, si je me trompe pas, il y a quelques années, gagné, remporté, même, je crois, un, deux, trois au général. Donc là, ils ont une grosse équipe cette année. Il y a eu un article sur Direct Vélo, donc ils veulent essayer de monter en DN1. Mm. Ils ont une très belle équipe. Ouais. Donc là, ça m'étonne pas qu'ils soient encore aux avant-postes. L'Essor Breton, la dernière étape qui a été gagnée par le local, si on peut dire ça d'ici, Stéphane Pouyès. Un beau sprint, on a vu une petite vidéo qui est passée par là. Après voilà, les autres étapes, bon, je peux pas tous les citer, mais je sais qu'au niveau du Tour de la Manche, il y a eu aussi des numéros, si je me trompe pas, c'était le coureur de Nogent, Vladim quelque chose, excusez-moi pour son nom, mais il est sorti au kilomètre, il va remporter avec 10 mètres d'avance sur le peloton, qui est aussi un jeune coureur. Et sinon, le général a été remporté par Jérémy Cabot devant Benoît Potvin et le frère Eugénic Thomas de l'ICEP Pavillurantin. Donc c'est pareil, encore des, je vois un Lalouette qui fait 4, un Boutville qui est 5 au général. Donc il y a quand même de, si on peut parler crûment, de gros morceaux en coureurs qui sont bien, qui sont en forme. Donc ça promet là pour les week-ends qui suivent.
Ça promet en tout cas de belles performances, oui Philippe ?
Non, rien de spécial à dire.
Rien de spécial du côté donc du cyclisme amateur. Le cyclisme amateur, eh bien, qui va avoir dans une semaine, eh bien, les yeux rivés sur la Ronde de l'Isard, qui arrive à grande pompe. Hein. On la présentera en détail lundi prochain à Radio Vélo. Oui, Max.
Et pour terminer, vu que là-dedans, je pourrais pas me tromper, la Coupe de France 2, vu que Sablé, on est dans cette Coupe de France, est très mal placé. Ah. La quatrième manche qui arrive ce week-end, qui est organisée par la Pauge, qui sont derniers au classement général, donc ils seront chez eux. Donc deux jours, samedi 150 km et dimanche 150 km, donc beaucoup de points à prendre, deux étapes. Je pense que les derniers du classement entre Sablé qui sont avant-derniers et La Poche qui sont derniers, ça risque de batailler pour marquer le maximum de points.
Ils devraient dynamiter la course.
Avec l'Oudéa qui aura sûrement envie de refaire un des exploits qu'ils avaient fait il y a quelques années là-bas. Quoi.
Donc jusqu'à présent, l'Oudéa qui est vraiment au top.
Avec Côte d'Armor aussi qui se montre bien.
Qui se montre bien du côté de cette Coupe de France. De DN2, si vous avez des idées de sujets, notamment ben, pour le cyclisme amateur, n'hésitez pas à nous envoyer vos petits messages sur le Facebook, le Twitter, @radiovélo31 ou bien par mail radiovélo31@gmail.com. Merci Max pour cette petite rubrique amateur au cœur du peloton.
Bah, je suis rentré hier soir à minuit, donc écoute, 6 heures de route pour entrer de la Sarthe hier soir. Moi aussi j'ai fait mes courses là-bas. Bon, c'était des courses, une coursette, on peut ouais, dire ça, vu que c'était pas une élite. Mais bon, il y avait quand même du beau petit niveau. Hein, donc moi j'ai fait vendredi, samedi. Et voilà, donc ça fait encore un gros week-end.
Bon, ça remet la confiance en tout cas de faire des courses
oui,
comme ça.
Oui, une petite place, moi je sens que ça revient. Donc bon, j'essaierai d'aller marquer si je peux quelques points le week-end prochain. Quoi.
Bon, mais tant mieux en tout cas. On suivra ça de près. Je me tourne vers Guillaume maintenant, mais du côté du matos, sans transition, sans musique ni rien, à chaud comme ça. Guillaume, il a des choses sous le coude vu qu'il a été sevré de chronique lundi dernier. Et puis il prend des petites notes. T'as vu quand Alex y parlait, hop là, Guillaume il sort le style. Kilos,
ah, mais ça m'intéresse, moi, tout ce qui est entraînement. Je suis pas un spécialiste, mais voilà, ça m'intéresse pour se comparer. Enfin, ah, pas pour moi me comparer, parce qu'il en manque.
Quand tu fais tes 100 bornes sur ce travail, il faut que tu les fasses tous les jours, les 100 km.
Ouais, mais c'est pas mon métier.
Et Alexis qui nous dit qu'un jour il passera nous faire un petit coucou en studio. On le remercie encore, bien sûr, de sa disponibilité. Guillaume, est-ce qu'il y a des nouveautés, des infos, des trucs que tu as essayé, je sais pas.
Bah, des infos, oui, parce que comme tu dis, comme la semaine dernière, on n'a pas pu en faire. Il y en a plein. Bah, je suis déçu de pas avoir de musique quand même.
Et non.
On ferait faire un bruit de derrière, quelque chose comme ça.
Écoute, rien ne va plus. D'ailleurs, messieurs, vu qu'on a environ 3,5 millions et 4 millions d'auditeurs tous les lundis soirs, modestement, j'en profite pour lancer un appel. Si vous habitez entre Toulouse et Montauban, ou pas trop loin en tout cas du studio qui est à Bouloc, dans le 31 à côté de Fronton, on cherche un technicien dans Radio Vélo, mais aussi sur l'ensemble des émissions. N'hésitez pas à nous contacter si vous aimez bien les ordinateurs, les tables de mixage, que vous avez envie de donner un coup de main. N'hésitez pas, parce que perso, j'en peux plus, voilà. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe pour venir faire un petit peu la technique. Je suis sûr, t'as un copain DJ qui va venir, Max.
Mais déjà, on va mettre une photo de ce qu'il y a à faire, déjà. Là. Voilà, bon. Et puis après, moi, déjà, niveau vélo, je suis pas très, très bon en mécanique, alors je te raconte pas là-dedans.
Non, Guillaume, il pourrait à la rigueur, mais on le préfère dans sa chronique. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter sur le Facebook Radio Vélo, le Twitter @radiovélo31, et également le mail radiovélo31@gmail.com. On sait jamais, Philippe, il y a peut-être passionné de vélo qui aime tripoter les boutons aussi.
Ah bah oui, effectivement, ça peut faire, pourquoi pas. C'est pas incompatible, effectivement. Le vélo, maintenant, c'est devenu très très technique, effectivement, avec beaucoup de... Donc pourquoi pas faire de la technique aussi informatique.
Voilà.
Tu rémunères comment, par contre, le technicien
hein. Écoute, je vois que t'as du fromage,
voilà, on peut faire ça,
quelques restes dans la cabine. Et puis si faut sortir le chéquier, Max. Guillaume.
Allez, à moi, quand même. Plein de news. Notamment Vitoria qui a sorti une nouvelle colle à boyaux. Donc les spécialistes, c'est dommage, il n'y a pas Julien qui est là, mais les spécialistes du collage boyaux.
Ah, moi je le fais des fois. J'ai crevé voilà. Ce week-end à la Mégane, à la Clio.
C'est pas pareil. Mais les spécialistes du collage boyaux savent quand même, des fois c'est compliqué de faire le collage, on s'en met partout, etc. Et Vitoria qui a sorti un produit entre guillemets révolutionnaire, donc qui tâcherait pas. Qui se nettoie à l'eau, donc ça s'appelle Magic Mastic. Donc j'ai pas encore testé à voir ce que ça peut donner, parce que moi ce qui m'inquiète c'est que ça se nettoie à l'eau, donc qu'est-ce que ça donne quand on roule sous la flotte, je sais pas. Mais voilà, apparemment il y a des coureurs pro quand même qui l'auraient utilisé.
D'accord.
Donc à voir, mais ça apparemment ça simplifie. Donc si ça tâche pas et que ça colle facilement en 12 heures et que ça s'enlève facilement sur la jante, c'est quand même une petite révolution.
Oui, ça veut dire quand même que l'industrie encore travaille sur la technique au boyau. Effectivement, c'est pas dépassé le boyau, on fait encore des études pour coller les boyaux, donc ça prouve que le boyau ne va pas être encore remplacé par tous les nouveaux pneus qu'il faut maintenant.
Non, c'est vrai que les industriels essayent de relancer, c'est vrai que c'est un des inconvénients. Enfin, beaucoup de gens ont peur sur le boyau, du collage, etc., en cas de crevaison, et peut-être que cette solution aiderait les gens à franchir le pas du boyau. Ensuite, on a TomTom, donc le fameux fabricant de GPS qui se lance dans les caméras sportives. Donc, tout le monde connaît la GoPro, il y a Shimano qui en a une aussi, Garmin. Donc TomTom qui lance la Bandy, une caméra qui va coûter dans les 439 € aussi, je crois, qui est étanche et que j'aurai en test, je pense, d'ici deux mois. Et donc voilà, il se lance aussi dans les caméras sportives qu'on peut fixer sur le vélo, sur les planches à voile, sur les cerfs-volants, etc. Après Merida qui a présenté hier. Merida, pour ceux qui connaissent pas, c'est le deuxième plus grand fabricant mondial de vélos carbone.
Merida,
ouais.
Oui, Lampre.
C'est ça, Team Lampre Merida. Donc, ouais. Premier fabricant mondial, c'est Giant. Le deuxième, c'est Merida.
D'accord.
Donc, Merida qui a présenté un nouveau cadre Sculptura hier. Le cadre de série le plus léger au monde, 680 grammes le cadre. Donc, c'est un peu plus léger que ce qu'avait présenté Trek avec les Monda à 690 grammes. Donc, voilà, maintenant, on se bat à coup de dizaines de grammes. Petite nuance quand même, c'est pas le cadre que va utiliser la Team Lampre Merida. Eux, ils vont avoir le même cadre, mais plus lourd, 750 grammes. C'est pas pour des raisons de poids UCI, mais c'est Merida a bien annoncé que leur cadre à 680 grammes est 15 à 20% moins rigide. Donc, ils ont bien expliqué qu'à 750 grammes, pour eux, ils pensaient qu'on était, pour l'instant, en tout cas, avec ce qu'on connaît pour la fabrication, on est arrivé à la limite basse pour la rigidité, etc. Donc, on pourra pas descendre bien en dessous pour le poids des cadres.
D'accord. Donc, Merida déjà au maxi, c'est ça?
En tout cas, pour un vélo utilisable, on va dire tous les jours, sans contrainte sans contrainte de poids du coureur. Donc peut-être qu'un coureur de 40 kg, effectivement, il peut utiliser ce cadre à 680 grammes, mais après, des coureurs plus lourds, apparemment, ça peut poser des soucis. Donc voilà, c'est plus pour montrer qu'ils savent faire des cadres à ce poids-là, mais là, c'est vraiment de l'artisanal. Ils mettent 15 heures pour faire ce type de cadre, c'est vraiment étudié. Ils appliquent 400 feuilles de carbone vraiment positionnées à la main. Donc voilà, c'est de l'artisanal.
D'accord. Bon.
Après, Castelli qui a présenté, alors là aussi, j'ai pas testé, faut voir ce que ça donne, des nouveaux, un sous-vêtement et des manchettes, Prosecco Ice, je parle pas italien, donc.
Prosecco.
Prosecco Ice, on va dire, qui abaisserait la température corporelle de 3 degrés. Donc c'est presque un effet climatiseur. Donc à voir ce que ça donne en réel, parce que ça peut être très intéressant effectivement pour des courses comme le Tour de France ou autre par grosse chaleur, mais bon voilà, toujours se méfier aussi de ce que disent de ce qu'avancent les marques, après c'est à vérifier. Et enfin la pierre c'est Alexandre Genies qui a posté d'ailleurs sur son compte Twitter une photo de son nouveau vélo. À nouveau, la pierre Xelius SL. Donc, le Xelius qui existait déjà depuis quelques années, qui était utilisé par la FDJ. Et là, c'est un nouveau modèle SL, donc allégé, rigidifié, et qui sera présenté apparemment officiellement par la pierre à la fin du mois. Mais voilà, merci Alexandre Genies de nous partager ses nouveautés sur son compte Twitter.
Ouais, il s'est bien mis à Twitter. Je me souviens, il y a quelques années, il ne voulait pas en entendre parler, mais.
Ouais, ça y est,
il a compris. Il a trouvé des centres d'intérêt, je dirais.
Voilà, et moi, j'aime bien les coureurs comme ça qui partagent des infos en avant-première.
Ouais, qui osent, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils se sentent rigides, tout ça. Bon.
Voilà, mais.
Dans la limite du coureur, bien sûr.
Voilà, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent.
Non.
Et puis après, c'était tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a en nouveauté matérielle. Après, je pense qu'on verra des nouveautés, en tout cas chez les pros, d'ici un mois sur le critérium du Dauphiné.
D'accord.
Là, le Giro, apparemment, il n'y a rien de. Rien de bien nouveau, mais je pense que Critérium de Dauphiné, d'ailleurs j'y vais parce que c'est la course où on retrouve souvent les nouveautés qui seront utilisées sur le tour.
C'est ce que tu nous répètes souvent, que c'est vraiment un moment important de la saison pour le matos.
Voilà, pour le matériel, c'est vraiment là que les coureurs testent en conditions réelles en fait le nouveau matériel. On parle beaucoup d'un nouveau groupe électronique FSA.
D'accord.
Donc, mais là, c'est l'Arlésienne. On en entend parler depuis quelques années, presque, on va dire.
Ouais.
Contador l'utiliserait apparemment au Tour de France cette année. Mais le problème, c'est qu'on a, pour l'instant, il n'y a aucune fuite ni rien. Donc, moi, ça m'étonne. Je suis très dubitatif là-dessus parce que, en général, il y a toujours quelques fuites quelques mois avant. Là, il n'y a toujours rien. Donc, bon, je vais quand même aller scruter ça, mais j'ai un doute.
Puis l'ami Alberto, il a quand même un Giro à boucler avant de se projeter sur le tour.
Voilà. Donc, c'était tout pour le matériel. Pour ces deux dernières semaines.
Mais c'est déjà pas mal. Merci Guillaume en tout cas pour cette chronique toujours complète.
On peut retrouver sur
Sur mon site matosvelo.fr.
Matosvelo.fr, toujours au top, Guillaume. Et puis on va se tourner vers Philippe avant d'embrayer sur la fin de l'émission pour bien la petite rétro. Parce que on se met en quoi là? En 84, c'est ça?
Oui, mais d'abord on va reparler un tout petit peu de Contador puisqu'il avait bouclé un Giro et puis après le Tour de France. Mais il y a quand même la route du Sud qui s'annonce pour lui, je crois.
Oui.
Donc voilà, Contador dans la région, c'est quand même un événement. Pour la fin juin, je crois.
Et oui, parce qu'on a eu la présentation de la route du Sud il y a de cela pas très longtemps. Hein, c'était mercredi dernier au siège de la route du Sud, de la Dépêche du Midi plutôt. Et c'est vrai qu'on la présentera également avec un grand départ, je crois, de Lourdes et une grande arrivée du côté de Gaillac. Ça change un petit peu, hein, Philippe. C'est bien, ça se renouvelle et ça revient à 4 jours cette année.
C'est une bonne chose. Une bonne chose. Voilà, non, moi je vais vous parler effectivement du Giro 1984, hein. Et ce Giro effectivement est un Giro assez particulier puisqu'il y a Francesco Moser qui participait avant. En janvier 84, Francesco Moser avait battu le record du monde de l'heure effectivement à Mexico avec un vélo totalement révolutionnaire, effectivement un cadre plongeant, hein, des roues lenticulaires, c'était la première fois qu'on l'a utilisé. Et là sur le contre-la-montre du Giro, de ce Giro 84, il utilise ce vélo pour la première fois. Par contre on remarque ce qui fait un peu ancien quand on regarde les photos, c'est qu'il y a encore des cale-pieds à l'ancienne avec des courroies sur ce vélo. Voilà. Mais il va gagner le contre-la-montre de ce Giro. Et effectivement, après, par contre, Laurent Fignon, qui est son grand rival pendant ce Giro, va prendre le maillot rose, donc, pendant les autres étapes. Par contre, à la cinquième étape, donc, finissait, donc, cette étape, en Italie, bien sûr. Je crois que la ville, c'était, attendez, je vais vous le dire, ça, Blocos, voilà. Et il avait, par contre, Laurent Fignon pas pris trop ses provisions dans le Blocos parce qu'il était victime d'une fringale. Et il perdait une minute. Et après, par contre, Laurent Fignon allait faire de superbes étapes de montagne et reprendre donc le maillot rose. Par contre, nombreuses tricheries dans ce Giro, puisque lui, Moser, effectivement, on le voyait même pris en photo par les journalistes, poussé dans l'école, et il n'y avait pas de réclamation prise contre lui. Certaines étapes avaient été raccourcies au dernier moment pour éviter les grands cols et éviter effectivement à Moser de trop perdre de temps, parce qu'effectivement, on voulait en Italie que Moser, qui avait gagné donc le record du monde de l'heure, gagne ce Giro. Et Laurent Fignon était en tête au dernier contre-la-montre juste la veille. Effectivement, il a fait une superbe étape de montagne et dernier contre-la-montre. Et bien là, Moser réutilise son vélo de record du monde. Et par contre, Laurent Fignon, sur les conseils de Cyril Guimard, qu'on a eu il n'y a pas tellement longtemps dans Radio Vélo.
Au tout début du mois de janvier, on avait passé une émission de folie. Ça sentait le vélo comme rarement.
Et ceux qui veulent le ressentir, on peut facilement les réécouter d'ailleurs, ces émissions. Mais pour parler de Cyril Guimard, il y avait dit effectivement à ce moment-là de prendre son vélo classique. Et avec le vélo classique, effectivement, Laurent Fignon allait perdre dans le contre-la-montre le dernier jour. Ça vous rappelle pas un certain Tour de France, il allait perdre ce Giro 84, et ça a été une grande déception pour Laurent Fignon parce qu'il aurait pu gagner ce Giro. Et n'oublions pas qu'en 84, il a gagné le Tour de France également face à Bernard Hinault, donc il aurait pu faire le doublé que peut-être Contador veut peut-être faire cette année. Voilà, c'était quelque chose que n'avait pas réussi Laurent Fignon cette année-là parce qu'effectivement il avait perdu dans des conditions un peu particulières. Par contre, l'équipe Renault, l'équipe de Laurent Fignon avait gagné tous les classements par équipe. équipe. Laurent Fignon avait gagné, bien sûr, le classement du meilleur grimpeur. Donc voilà, un grand Giro pour le regretter Laurent Fignon.
Et c'est pas cette année-là que, justement, je crois, Moser avait été aidé par un hélicoptère.
Oui, voilà. Mais c'est dans le dernier contre-la-montre, ouais, effectivement, où l'hélicoptère avait gêné Laurent Fignon, effectivement. Donc voilà, il y a eu, effectivement, l'affaire de l'hélicoptère, ouais, en plus de l'affaire des poussettes. Mais des poussettes qui sont vraiment flagrantes, puisque vous voyez une photo à une du grand journal L'Équipe, où on le voit, effectivement, un spectateur qui pousse Moser, ouais.
Les Italiens n'avaient pas aidé Fignon cette année.
Voilà. Et d'ailleurs, Pierre Chani, le grand journaliste dont je vous parlais tout à l'heure, titré dans L'Équipe le dernier jour, encore une victoire de la science. Une première victoire de la science dans le cyclisme, puisqu'effectivement, Francesco Moser utilisait un vélo issu du progrès scientifique. Voilà.
Bon, messieurs, pour conclure, est-ce que vous voulez rajouter une petite brève, un petit coucou, une petite info, une idée sortie, Max? Non, je sais pas.
Sortie. Moi, je vais plutôt aller dormir.
Bon, repos, c'est vrai que là, c'est début du week-end pour
faire. Il y a encore un jour férié qui arrive, donc ça va être
C'est vrai, c'est quand c'est jeudi. C'est, ça, c'est jeudi.
Allez, ah, si, une petite idée. Moi, je suis pas très VTT, mais j'ai un collègue qui en fait pas mal. Rando Rally de la Noviale, c'est en Aveyron.
Ah.
Alors c'est assez atypique parce qu'il y a presque plus de ravitaillement que de kilomètres. Donc en gros, tous les 5 kilomètres, vous avez un ravitaillement avec que des produits locaux, du saucisson, etc. Ça pourrait intéresser d'ailleurs ça, Max, je pense. Donc
voilà,
c'est une épreuve VTT, pas chronométrée ni rien, mais ouais, apparemment bonne ambiance. Donc si vous savez pas trop quoi faire. Je crois que c'est le week-end prochain, donc, mais voilà, tapez sur internet Rando Rally de la Noviale et ça peut être une idée sympa de sortie où vous prenez des kilos à la fin de la journée.
Oh non, ça stabilise du coup, fait d'effort. Merci messieurs, merci Guillaume, merci Philippe, merci Max, merci à tous les auditeurs pour cette émission. On se retrouve lundi prochain en mode Ronde de Lizard.
Et peut-être encore sous la chaleur parce qu'ici il fait très chaud.
Peut-être ici parce que plus de 30 degrés, le fromage de chèvre en dégouline. Bonne soirée à l'écoute de cette radio.
Ciao.
C'est la vie.